RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On y va, c'est parti, c'est l'heure des grandes gueules, des GG. Vous pouvez commencer déjà à tapoter le 32-16 pour être en direct dans les grandes gueules avec nous jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère. Bonjour Kaouter.
Bonjour les garçons, bonjour les GG, bonjour la France.
Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, nous accompagne aussi aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes avec Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Bonjour mon cher Mehdi.
Bonjour à toutes et à tous.
Les sujets de discussion aujourd'hui, tout à l'heure à 10h, carburant. Est-ce que, franchement, vous craignez la pénurie? Est-ce que vous commencez à vous inquiéter quand on voit les files d'attente devant les stations de manière générale? Total, il n'y a plus une goutte de carburant, visiblement. Est-ce que vous pensez qu'on entre en pénurie? Vous êtes inquiet? 32-16 pour nous raconter votre parcours, peut-être, du combattant, de l'automobiliste en déshérence pour trouver un peu de gasoil ou un peu d'essence. C'est à 10h qu'on en parlera. Notre premier sujet de discussion va nous emmener à discuter du cas de cet adolescent de 16 ans, Rudy, en situation de handicap, et qui s'est fait tabasser par, je mets des guillemets, ses petits copains, camarades d'école, devant son établissement scolaire, du côté de Saint-Maxime.
RMC, les grandes gueules.
J'ai eu peur pour ma vie. Bah, je me suis dit, j'espère que je vais m'en sortir. J'ai été voir la CPE, elle m'a dit qu'on croit que c'était pas les problèmes du lycée. Bah, mais vu que ça s'est passé en dehors du lycée, bah, c'est pas au lycée de gérer. Bah, j'ai quand même encore un peu peur.
Voilà, nous sommes à Saint-Maximin dans l'Oise. Ça s'est passé en dehors du lycée, donc l'école n'a rien à voir là-dedans. Le a dit la direction. On va rappeler de quoi il s'agit, ce qui se passe.
Là, sur les images, parce que le problème, c'est que désormais, enfin, le problème, il y a deux problèmes. Il y a bien sûr le harcèlement, la violence, et puis en plus, il y a maintenant la vidéo, et la vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux par les agresseurs. Donc on voit quatre jeunes qui s'en prennent à Rudy, 16 ans. L'agression est quand même assez violente. Lui-même a dit j'espère que je vais m'en sortir. Il n'était pas sûr de pouvoir s'en sortir. Et il explique, Rudy, qu'en fait il est victime de harcèlement depuis l'année dernière en raison de son handicap. Il a un pied plat et il est hyperactif. Et en première année de CAP, il avait d'ailleurs écopé de 2 jours d'exclusion parce que on l'embêtait, on l'emmerdait, et donc il répliquait, il se bagarrait, et donc il a été exclu à cause de ça. Et là, il dit, j'essaie de ne plus répondre aux provocations, mais les moqueries, et les provocations et les coups continuent. On me traite toujours d'handicapé, de canard boiteux, que des trucs comme ça, ça me fait un peu mal. Là, il ne veut plus retourner à l'école depuis ça, parce que forcément, il est menacé. Ah oui, tu as parlé, tu n'arrives pas à te défendre tout seul, etc. Donc, il est dans une situation un peu compliquée.
Il est pas allé de toute la semaine à l'école.
Ouais, le parquet de Senlis a quand même ouvert une enquête, faut le dire, une enquête de flagrance pour violence aggravée, avec pour enquêter la base, c'est cette vidéo, parce que ces petits cons, ils sont contents de mettre en scène ce qu'ils font, mais en même temps, ils tombent dans le piège parce qu'avec la vidéo, on va les retrouver. Et alors, on va voir s'ils sont condamnés, à quoi ils sont condamnés également, et comment on peut aider Rudy à continuer sa scolarité à Saint-Maxima dans l'Oise.
Alors, est-ce qu'il faut plus de fermeté envers les agresseurs? Est-ce que l'école est trop laxiste vis-à-vis de la justice, d'ailleurs, vis-à-vis de ces harceleurs? Qu'en dites-vous? Vous avez des témoignages, vous l'avez vécu, ou votre enfant l'a vécu, 32-16 pour le dire au G. Kaouter.
Je ne peux pas dire que l'école est laxiste parce que moi, mon fils a été harcelé l'année dernière et j'avoue que le chef de l'établissement a été hyper réactif. Il n'a pas réussi à régler le problème parce qu'après, c'est malheureux, mais il a fallu que je réagisse en quartier pour pour régler le problème. C'est-à-dire que le minot faisait que frapper mon fils et qu'à un moment donné, je suis allée voir la maman. J'ai dit voilà, j'ai prévenu le proviseur. J'ai dit moi, à 17h, je suis devant l'école. Je viens avec la racaille et la police, c'est pas la peine d'appeler personne en fait, et je vais régler le problème à 17h. Et donc, j'ai chopé le minot et sa maman et ça a été réglé tout de suite. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, il est heureux, la cible de quelques moqueries, tout ça, etc.
Mon fils.
Ouais. Ouais, mon fils. Et en fait, c'est le harceleur de l'année dernière qui le défend cette année. Donc, comme quoi, quand il y a une médiation et qu'il y a une prise en main, ça peut s'arranger.
Et c'était pourquoi est-ce qu'on l'embêtait?
Le petit avait des soucis. En fait, il avait reporté ses soucis graves, d'ailleurs, au demeurant, sur mon fils. C'est souvent comme ça, les enfants qui sont violents, ils ont un problème au départ. Alors, je ne plains pas les enfants, là, dans cette situation. Mais il faut les prendre, il faut les prendre en considération. Et il faut pas les lâcher dans la nature parce que il faut aider ce jeune homme à se rescolariser, mais il faut aussi faire en sorte que ces jeunes gens ne frappent pas d'autres personnes et d'autres enfants. C'est un problème grave. Et c'est, excusez-moi, il y a un problème des parents aussi. Parce que moi, si mon fils demain il fait ça, je lui explose la tête. Je veux dire, les parents de ces enfants qui frappent, ils sont où? Ils font quoi? Donc c'est pas que le problème de l'école, c'est aussi le problème des parents et de leur.
Mais il a fallu que ce soit toi qui y ailles, comme on dit. Voilà.
Mais le proviseur avait agi. Mais ça n'a pas suffi. Mais après, à la fin, j'y suis allée moi. Mais franchement, l'équipe pédagogique et le proviseur et la CPE avaient agi. Alors, et aussi, dans certains collèges, il y a des...
Mehdi, toi qui as un petit garçon aussi.
Alors, je touche du bois, j'ai pas eu ces soucis-là pour l'instant. Enfin, j'espère ne jamais les avoir d'ailleurs. Mais c'est quand même ignoble. Déjà, 4 contre 1, ça fait très lâche. Ouais. Voilà. Mmh. Ils sont obligés d'être en meute, comme des animaux, pour pouvoir montrer leur supériorité physique sur un gamin qui est plus handicapé. Donc je sais pas quel bonheur ils trouvent à ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils matérialisent la chose en mettant ça sur les réseaux pour paraître pour des grands bonhommes. Mais c'est que des petits cons qui n'ont aucune cervelle et aucun courage. Parce que tu sais, ce genre de personnes, tu les prends un à un, ils se chient dessus. Excusez-moi l'expression, hein, mais ils se pissent dessus, ces gamins. Mais quand ils sont en meute, ils se prennent invincibles et ils se prennent pour des gladiateurs. Maintenant, est-ce qu'il y a un laxisme de la part du lycée ou de l'éducation pas nationale de laxisme, non, parce que c'était à l'extérieur déjà.
Voilà, ça s'est passé à l'extérieur. Donc, ça nous regarde pas. Quoi,
et ben, en fait. C'est pas que ça les regarde pas, mais ils peuvent pas être partout, ils peuvent pas être aussi dehors, devant l'arrêt de bus, devant le truc. Alors on a bien beau taper à chaque fois sur l'éducation nationale, mais là, c'est un fait, ce n'est en aucun cas leur responsabilité. Mmh. La responsabilité, elle est unanimement et directement sur les idiots qui font ça. Et le gosse, je vous le dis, il se fait taper. Et en plus, il va pas en cours. Donc, c'est une double punition pour lui. Parce que, de un, il est handicapé. Il a une situation d'handicap. Il va pas en cours et il se fait taper.
Non, mais les parents,
c'est beaucoup pour lui quand même, hein, pour le gamin. Hein. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite. Et ces gamins-là doivent être... devraient être, en tout cas, je pense, très sévèrement réprimandés, punis et voire même expulsés de leur même si ça et là je le prends, je dis ça sous l'autorité, on va dire, de Kevin, qui est le plus à même de parler de ça parce qu'il est professeur d'histoire géo, mais je pense que l'école devrait en faire un clair exemple pour ces gamins-là, pour les expulser de leur établissement et de d'accord. Trouver une solution définitive à ce problème.
Kevin,
ça donnerait une leçon.
Oui,
c'est pas sous ton autorité.
Non, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe alors du côté de l'autorité scolaire?
Bah, le débat, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le harcèlement scolaire, c'est un véritable problème. Mmh. Il faut en faire une cause nationale. Jean-Michel Blanquer en avait fait une cause nationale. En étant appuyé par Brigitte Macron, hein, c'est ce genre de problématique lui tient évidemment à cœur, et Pap Ndiaye continue cette lutte-là, parce qu'en effet, un enfant n'a pas à avoir la peur au ventre quand il vient en cours. L'école, c'est le temple du savoir, c'est le temple de l'épanouissement, ce n'est pas le temple au sein duquel on développe des peurs, on développe des phobies. Alors après, quand on est enseignant ou chef d'établissement, c'est très compliqué déjà de voir qu'il y a harcèlement, parce que c'est quelque chose souvent qui est caché, l'élève a peur de parler, et quand on s'en rend compte, la situation est souvent inextricable. Surtout que nous, on voit les élèves au sein des classes, au sein de l'établissement, mais on sait très bien que le harcèlement scolaire, ça se poursuit sur les réseaux sociaux, ça se poursuit sur Snapchat, sur ce genre d'application, ou dans les quartiers autour. Donc évidemment, on essaye de d'agir, déjà de prévenir, et on essaye de punir dans le cadre qui est le nôtre, qui est le cadre scolaire. Et de manière plus générale, moi, ça fait 9 ans que j'enseigne, et ce qui me choque, c'est la montée de l'hyperviolence et la montée de la violence gratuite. C'est-à-dire qu'on a affaire à une minorité, certes, mais une minorité agissante, de plus en plus violente, une minorité qui ne possède plus, finalement, les codes moraux indispensables à la vie en société, qui n'arrive plus à faire la part entre le bien et le mal, et cette minorité n'a même plus conscience, finalement, de détruire l'autre, voire même il y a une envie de détruire l'autre pour ce qu'il est, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est gros, parce qu'il est petit,
parce qu'il est juif, intégré,
parce que etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre. Et d'ailleurs, il y a un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger, qui a beaucoup travaillé avec les élèves délinquants et qui racontait une anecdote, moi, qui m'a frappé. Il y a un gamin qui avait tabassé un autre gamin, et Maurice Berger lui demande, mais pourquoi tu ne l'as pas tué? Il a répondu, tout simplement parce que j'ai un ami qui m'a attrapé par la capuche, je n'ai pas pu le faire. Donc on est quand même, aujourd'hui là, avec ce phénomène, en effet, d'hyper-violence et de violence gratuite. Donc, je pense qu'il
faut... Généré par quoi, selon toi, aujourd'hui?
Je pense parce que c'est le monde c'est de quoi, la virtualité, voilà, ouais. Beaucoup. Parce qu'en effet, les élèves ont du mal à faire la différence entre le monde virtuel et le monde réel, et souvent, ils ont l'impression de jouer. Mais le harcèlement, tabasser, insulter les autres, ce n'est pas un jeu. Et je rejoins ce qu'a dit Kauter, où sont les parents? Alors, ça arrive parfois dans des familles où les enfants sont très... très bien encadrée, mais souvent ça arrive aussi chez des familles où l'éducation a été balbutiante et où les parents n'ont pas structuré moralement leurs
comment
enfants.
Comment tu ferais toi si ça se passe dans ta classe, que tu sais qu'il y a un élève qui est la cible de plusieurs autres et qu'il est moqué à cause de son physique, à cause d'un handicap ou quoi que ce soit.
Alors,
est-ce que tu te sens de prendre l'élève et ceux qui le harcèlent et de déminer la situation?
Ça se fait dans les collèges.
Bien sûr.
Ça c'est un travail d'équipe. L'élève ne doit pas rester seul face à ses harceleurs et l'équipe pédagogique ne doit pas rester seule face à ceux qui harcèlent un élève précis. Mmh. Alors tout de suite, je vais évidemment alerter le chef ou la chef d'établissement, le principal adjoint, la CPE, l'infirmière. J'alerte évidemment les parents pour qu'il y ait un véritable travail qui se mette en place et que surtout l'élève ne se sente pas en danger. Voilà, le but, c'est véritablement qu'il y ait une continuité entre l'extérieur et l'intérieur de l'établissement et qu'on agisse tout d'abord de manière préventive, mais aussi de manière répressive. Et je pense que faire des exemples, parfois, c'est la meilleure pédagogie dans un système scolaire.
Oui, justement, Kevin, souvent le problème, c'est que les agresseurs restent dans l'établissement, la victime également, et donc la victime retrouve chaque jour ses agresseurs, même si la victime les a dénoncés, les agresseurs veulent se venger, et donc parfois c'est la victime qui est obligée, les parents font déménager leur enfant, font changer d'établissement pour le protéger. C'est un peu comme les femmes battues, c'est-à-dire que c'est pas la femme battue, c'est l'homme qui bat. Et là, je suis désolé, mais c'est aux quatre, tu les sors et tu les vires. C'est-à-dire que lui, il doit pouvoir revenir dans ses établissements sans voir ses agresseurs. Est-ce que ça s'est fait systématiquement? Je suis pas sûr.
Non. Alors, c'est fait de manière majoritaire quand même, mais c'est vrai que parfois il y a une forme de, enfin, un fatalisme face à cela et on se dit que la solution de facilité, c'est finalement sortir de l'élève de la classe ou de l'établissement, et ce n'est pas normal. Et on en a un exemple qui a défrayé la chronique, c'est l'affaire Mila, où Mila a été harcelée, elle a dû finir sa scolarité chez elle puisqu'elle ne pouvait plus pénétrer au sein d'un établissement scolaire. Ça, je suis d'accord, c'est une lacune qui est importante, on essaye de l'éviter, mais parfois la situation est tellement inextricable que c'est pour le bien de l'enfant aussi qu'on le fait changer de classe. On a une position qui n'est pas facile. Mais c'est
après Mila, c'est une affaire qui a été surmédiatisée, mais de manière générale, parce que tu ne peux pas aussi jeter un mineur en dehors de l'école. Et si
tu le mets ailleurs.
Oui, tu déplaces le problème si tu les laisses ensemble. Enfin, moi, quand j'étais éduque, j'ai eu beaucoup à gérer ça. C'était le début des tournantes. C'était quand tu faisais des viols à l'école, tout ça, etc. C'était extrêmement compliqué à gérer. Et c'est pour ça que j'ai dit les parents. Parce que moi, j'ai reçu certains parents qui se payaient, qui me disaient, oui, tu trouves pas d'enfant d'école à mon fils. J'ai dit, écoute-moi, moi, je suis éducatrice jusqu'à 18h. Ton fils est à l'école de ma sœur. À 18h01, je lui explose la tête. C'est toute ma sœur, quoi. Donc, non, mais parce que tu fais ton travail, ok, mais à un moment donné, tu es aussi parent, tu es aussi frère et sœur, etc. Et quand tu as 10 mecs qui sautent sur une nana dans les toilettes et qui veulent, qui lui font des choses, tu vois, ou même sans la violer, mais qui la, tu touches les selles, les mains de la culotte et tout, c'est traumatisant pour une enfant de 13 ans. Faut arrêter de déconner, en fait. Tu détermines de manière négative toute sa future vie sexuelle, ses relations avec les hommes, etc., etc. Donc, ce qui est compliqué, c'est que il faut trouver un établissement qui veuillent accepter ces enfants, parce que tu peux pas forcer un établissement.
Parce que les établissements sont pleins.
Exactement, à récupérer un enfant qui a commis des violences, etc.
Donc c'est écrit sur son dossier, ce qui s'est passé de toute
manière. Oui, c'est écrit sur son dossier, mais tu peux pas forcer un établissement X à le récupérer. Et encore une fois,
c'est obligatoire.
Ben, je sais pas, moi, je les obligerai à faire des TIG, une médiation. Ça existe, il y a des projets pilotes dans certains collèges.
Mais t'as entendu là, dans le témoignage qu'on a passé, l'établissement dit, ça s'est passé à l'extérieur.
Tous le disent.
Aussi, tu vois. Donc ça veut dire que le gamin, il se fait taper à l'extérieur,
mais
la conséquence, elle est sur sa vie scolaire, puisqu'il il a peur de revenir à l'école.
De la vie scolaire, je suis d'accord.
Mais donc c'est ça qu'il faut arriver à résoudre.
Le véritable fléau, et les gens ne se rendent pas compte, c'est le manque de je sais pas comment exprimer ça. Les parents n'arrivent plus à tenir leurs enfants dans le sens où il y a des valeurs qui doivent être donner à leur gosse. C'est-à-dire, quand t'es à 4 contre un gamin handicapé, c'est quoi les valeurs que t'as reçues de tes parents?
Je peux dire
elles sont où les valeurs de tes parents? Elles sont où est l'éducation des parents? Quand t'es 4 bonhommes, 4 gamins contre une personne qui a un handicap, c'est où est la fierté de faire ça? Et en plus de mettre ça sur les réseaux sociaux, donc tu sais, t'as la double peine.
Un autre qui filme.
En plus d'avoir été tapé,
humilié.
Il est humilié publiquement. Et après, t'as des parents qui te disent oui, mais moi je sais pas ce qu'il fait mon gosse. Oui, mais moi je sais. Mais à un moment, si les parents ne font pas leur rôle premier, d'accord, qui est de donner des valeurs à ces gamins, de leur dire voilà, c'est une personne en situation de handicap, il faut justement l'aider, il faut aller dans son sens, il faut. Non, eux ils le tapent, ils l'humilient et ils le mettent sur la place publique. C'est aux parents la première décision. C'est aux parents de faire le premier pas. C'est pas l'éducation nationale.
D'où la nécessité, je crois, que dans certains cas, de supprimer les aides sociales à des familles qui ne jouent pas leur rôle dans un pays, dans un pays civilisé. On a des droits, mais aussi on a des devoirs. Et le premier des devoirs, c'est d'éduquer correctement son enfant. S'il y a une carence éducative, c'est normal qu'il n'y ait plus de droits. Et je pense que ça pourra avoir une efficacité importante. Il ne s'agit évidemment pas de taper sur la maman qui travaille la nuit ou qui a des difficultés, mais il s'agit de taper sur des gens qui n'en ont absolument rien à faire, voire parfois qui encouragent leurs enfants à faire ce genre de choses. Et une dernière chose que j'aimerais dire, je trouve qu'aujourd'hui, on a mis de côté le monde de l'enfance. On essaye des gamins de 10, 11, 12 ans, on les prend déjà pour des adultes. Mmh. Les petites filles qui se maquillent, j'ai vu des gamins à 6 ans ou 7 ans qui ont déjà des téléphones portables. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Mmh. Donc à force, à chaque fois, de violer ce monde de l'enfance et de faire des enfants des adultes plutôt que prévu, on aboutit aussi à ce genre de choses.
Pas d'accord sur les aides sociales, Cléotaire?
Non, je suis pas d'accord parce que l'année dernière, lors de ma deuxième émission, le jour où Tapie avait été enterré, j'étais arrivée en retard, je sais pas si vous vous souvenez, parce que j'étais en ligne avec ma sœur, parce que son fils, qui est dans un beau quartier de Marseille, dans les quartiers sud, se faisait harceler. Il s'appelle Yacine Metfé, il a des gros cheveux blonds à la Yannick Noah, tu vois, mais il s'appelle Yacine Metfé. Et dans cette école, il n'y a que des Charles-Édouard. Et ma sœur était scandalisée parce que nous, on vient des caniveaux de Marseille, quand même, tu vois, des bidonvilles. Et elle me disait, mais j'ai tout fait pour que mes enfants soient préservés et aujourd'hui, ils sont harcelés par des Charles-Édouard. Et donc, en fait, j'ai toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Et ces cinq enfants avaient monté un groupe Snapchat en disant, Yacine, on va te zigouiller, etc. Mon neveu était pétrifié à la rentrée, c'était début octobre, et il ne voulait plus aller à l'école. Le proviseur ne voulait pas les recevoir, etc. Mais il fallait médiatiser, crier, etc. Sauf que dans les parents, ce que tu disais, c'est pas que les parents n'y arrivent plus, c'est que les parents ne font plus le rôle éducatif. Dans les parents, il y en a un, alors il y en avait qui niaient, non, mon fils ne fait pas ça, etc. Et il y en a un, Karim, pour le citer, même si je ne le connais pas, il a attrapé son fils, il lui a mis deux taquets dans la figure devant tout le monde, il lui a dit, viens là, je t'ai appris à boxer et à te défendre pour te défendre et pas tomber à cinq sur un enfant. Et il lui a dit, donc je vais prendre Yacine, prendre mon neveu, je vais lui apprendre à se défendre, parce que c'était un prof de karaté, de boxe, etc., etc. Et il va te mettre la rousse devant moi. Donc les parents, si tu veux, ils ont aussi, parce que j'ai commencé par ça, où sont les parents? Parce que moi, si mon fils, je suppose si ton fils, si demain toi tu as un enfant, il fait ça à un autre enfant, on va s'en occuper. Et là, non seulement il n'y a pas de travail éducatif en amont pour leur apprendre qu'on ne frappe pas à plusieurs quelqu'un, qu'on ne frappe pas quelqu'un tout court et encore moins une personne qui est vulnérable et handicapée. Et quand ils font ça, c'est les grands absents autour de la table. Les premiers qui doivent avoir autour de la table, c'est les parents.
Et bien dans un instant, on va en discuter avec Sonia. Elle est du côté d'Ille-et-Vilaine. Sa fille a été harcelée en collège et elle va nous raconter comment ça s'est passé, comment elle a réussi peut-être à résoudre l'histoire. Et puis Gilbert, il faudrait que la justice soit quand même plus ferme avec ses enfants.
Il a raison.
On revient sur le cas de Rudy, cet enfant handicapé qui s'est fait tabasser, ça a été filmé, ça s'est passé à Saint-Maximin dans l'Oise. Est-ce que l'école en fait suffisamment? Est-ce que la justice en fait suffisamment? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Kaouter Ben Mohamed, Mehdi Guézard et Kevin Bossuet, c'est le trio de GG qui nous accompagne et vous accompagne. Et j'ai un message aussi pour vous, je pense aux chercheurs du Pasteur Don, c'est la 16e édition du Pasteur Don. Jusqu'au 9 octobre, vous pouvez défendre la recherche, l'aider, vous mobiliser pour soutenir tous ceux qui travaillent pour faire avancer la santé, pour faire avancer les remèdes, les traitements. Et vous pouvez faire un don par téléphone au 3620 ou sur le site pasteurdon.fr. Allez-y, on compte sur vous. Dans les GG, on revient sur le cas de Rudy, ce gamin de 16 ans qui se fait harceler, qui se fait tabasser dans le Val d'Oise. On a les images qui ont tourné sur les réseaux sociaux de ce tabassage en règle. Ils sont quatre sur lui à s'acharner. Tout ça parce qu'il aurait, paraît-il, les pieds plats, il serait hyperactif. Donc, entre guillemets, pas comme les autres. Et ça lui vaut de se faire tabasser. C'est Sonia qui va en parler avec nous. Bonjour Sonia.
Bonjour les GG.
Vous nous appelez Ille-et-Vilaine parce que ce harcèlement, c'est ce qu'a subi votre fille aussi, Sonia.
Ouais, ouais. En fait, ma fille, alors je vous explique, en sixième, elle a subi du harcèlement de la part des camarades et des camarades filles. Parce que les filles aussi deviennent très très violentes en parole et en gestes, même souvent. En tout cas, elle a subi le harcèlement surtout moral. Dans le sens où quand elle allait au collège, c'était à chaque fois des critiques parce que ma fille est une élève très très assidue et enfin voilà, et elle aime l'école Et du coup, c'était voilà, elle est impliquée dans plein de groupes, dans les groupes d'éco-délégués, dans les groupes de délégués. Et du coup, bah c'est
la Fayotte,
c'est la petite intello.
C'est pas bien
de
vu
la
d'être
classe.
Bien. Et comment ça s'est passé le harcèlement alors du coup?
Non, c'est ça. Et en fait, alors du coup, bah c'était des insultes tous les jours. Elles avaient trouvé le moyen aussi de faire pression sur elles par rapport à une histoire de vol, en fait, soi-disant qu'elle aurait volé des bracelets à une de leurs camarades. Enfin voilà, tout était faux, hein, mais voilà. Et du coup, quand moi j'appelais le CPE pour justement faire remonter l'affaire, à chaque fois il essayait un peu de dire oui, mais faut dialoguer, faut essayer de parler avec les jeunes. Donc il les prenait dans son bureau, et puis finalement la situation se renversait dans le sens où la harceleuse devenait celle qui était en pleurs dans le bureau. Et enfin voilà quoi. Du coup, moi ça m'a pas plu du tout. J'ai pris les coordonnées, en fait, parce qu'elles se connaissaient, hein. Donc j'ai pris les coordonnées de sa maman, que j'ai trouvée sur internet, hein, puisque sa maman était sophrologue. Donc j'ai trouvé, enfin d'une des harceleuses, hein, j'ai trouvé les coordonnées de sa maman, je lui ai téléphoné. Et comme disait Kauter, en fait, c'est souvent quand tu appelles les parents et que tu fais jouer les parents, l'autorité des parents, que ça bouge. Parce que le CPE a même dit une fois à ma fille, elle en est revenue en pleurs, en fait, elle ne voulait plus aller au collège. En précisant que c'est un collège privé quand même. Donc tu penses mettre tes enfants dans un collège privé pour les protéger.
Pour la tranquillité,
tu payes, tu payes une prestation, enfin une prestation, oui, tu payes le collège. Et au final, c'est là où ils sont le moins en sécurité.
Et qu'a fait la maman, la maman de la harceleuse?
En fait, elle a eu une discussion avec elle. Alors, je sais pas quelle discussion, hein, mais moi, je l'ai appelée en personne et je lui ai dit, écoutez.
Elle a pris les choses au sérieux.
Ah ouais.
Et ça s'est arrêté?
Ça s'est arrêté de la part de cette gamine-là, oui. De la part des autres gamines, non. Donc, j'avais pas les coordonnées des autres mamans. Hein.
Et l'école vous a soutenu ou pas?
Alors, l'école a fait quelque chose quand je me suis fâchée et que j'ai demandé à voir le directeur. Parce que le CPE a fait une réflexion où ma fille, une fois, lui a dit « Faut que t'arrêtes de chialer chez ta mère à chaque fois. » Ouais. Arrête de tout aller lui rapporter. Arrête de tout rapporter à maman, là. C'est bon. Faut aussi un peu que tu sois grande et que tu te débrouilles par toi-même.
Sonia, bonjour. Tant qu'il n'y aura pas de punition, moi, je vais utiliser des mots peut-être qui vont un peu choquer, hein. Mais tant qu'il n'y aura pas de punition collective. Quand je parle de punition collective, c'est quoi? C'est que les gosses soient punis comme les parents. D'accord? Ça veut dire, je vous dis une chose, un parent qui a son gosse à la maison, ça le fait chier. Quand un gosse est exclu de l'école, d'accord, et que son gosse il est à la maison, ben le parent ça le fait chier. Ouais. Qui travaille ou qui travaille pas, hein. Dans les deux cas ça
mais
fait chier.
Mais tu régleriez, mais dis.
Non, mais quand tu as une punition collective où tu les mets les deux, où tu les accroches tous les deux ensemble, d'accord. Ouais. Je pense qu'il. Non, mais je te le dis.
Mais dis, ils sont seuls, les minots, tu pareil, ils vont faire leur vie, ils vont rester seuls, ils vont sortir dans la rue.
Quand un gamin est d'un milieu défavorisé, d'accord, et que le gosse il est à la maison toute la journée, d'accord, que ses parents seront obligés d'être au courant. Parce que généralement, c'est ou les grandes sœurs ou les grands frères. Quand c'est quelqu'un d'un milieu favorisé, d'accord, ça veut dire qu'il est un milieu correct, les parents vont prendre quoi? Des nounous ou des choses comme ça pour garder le gamin? Ou alors ils vont le mettre
mais
dans
au
des,
collège,
dans
ils se gardent seuls, les enfants.
Dans des écoles privées. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Kauter. Mais quand tu n'as pas de punition collective, ça veut dire que les parents du gamin soient autant emmerdé que le gamin lui-même, je peux te dire que ça bougera.
Mais dis, j'étais éducatrice. Mais non, les minots, ils sont livrés à eux-mêmes. Les minots sont livrés à eux-mêmes. Les parents, moi, j'ai eu des enfants pendant des années dont les parents ne recevaient pas le bulletin scolaire. Et ça inquiétait pas les parents, ils s'en tapaient complètement.
C'est un problème, ça.
J'ai fait venir.
Donc c'est le problème des parents.
Donc je faisais faire la réunion qu'il y a après chaque trimestre, tu sais, avec les parents au collège. On la faisait au centre social. Eh ben, t'avais toujours que les trois parents qui venaient au collège, qui venaient au centre social. Ils avaient rien à prendre, ni bus, ni rien du tout. Donc les enfants au collège, quand tu dis ça, c'est pas vrai. Ils vont être livrés à eux-mêmes. Les parents, ils vont aller travailler, femmes de ménage. Ils ont des métiers extrêmement difficile, ils partent hyper tôt, souvent ils sont
mais
pas véhiculés.
Mais ils sont au courant de ce qui se passe.
Mais au courant ou pas
au courant.
Mais non, mais moi j'ai eu des enfants.
Il y a des parents qui sont même pas au courant de ce qui se passe.
J'ai eu des enfants qui ont été renvoyés de l'école dont les parents ils étaient même pas au courant. Et même si au courant,
tu es en train de dire ce que je suis en train de
mais
dire.
Ce que je veux te dire, c'est qu'ils feront rien de plus. Mais non, je dis pas la même chose. Je te dis qu'en fait, ils vont pas rester avec leurs enfants et c'est pas une punition pour les parents. Parce qu'ils sont seuls livrés à eux-mêmes.
Alors tout d'abord, les problèmes de carence éducative, c'est pas une question sociale. Moi j'ai des amis qui ont eu la chance ou la malchance d'évoluer dans un un milieu très favorisé, notamment un ami qui est tombé dans la drogue ou l'alcoolisme parce que son père faisait des affaires, parce qu'il n'était jamais chez lui, il était livré à lui-même. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les milieux. Ensuite, c'est pas parce qu'on est dans un milieu, on est dans un milieu défavorisé qu'on n'est pas dans un milieu correct. J'ai pas aimé l'adjectif, mais je sais très bien que tu ne l'as pas dit à mal. Et après, de manière générale, quand on vire quelqu'un, enfin quand on exclut un élève une journée, il se retrouve tout seul chez lui en train de jouer à la PlayStation et l'impact de la sanction finalement, voire même l'enfant est parfois très content d'avoir été exclu une journée puisqu'il ne va pouvoir rien faire une journée. Maintenant il existe ce qu'on appelle des exclusions en interne où l'élève arrive à 8h, où on le fait travailler jusqu'à 17h30 et moi qui suis enseignant, vous me connaissez maintenant, je suis pour les sanctions, mais dans le cadre des adolescents, il faut aussi que la sanction soit pédagogique, parce que j'estime quand même qu'à 12, 13 ou 14 ans, tout n'est pas perdu, et il faut essayer de faire prendre conscience à ces gamins pourquoi on les punit, pourquoi ce qu'ils ont fait est mal, puisqu'on est là aussi pour préparer la société de demain. Donc des sanctions, d'accord, mais des sanctions qui soient justes, compréhensibles, et qui permettent en effet d'avoir un meilleur climat scolaire.
Quand même, Sonia,
allez-y,
Sonia.
En fait, j'explique, parce que du coup, donc ma fille subit le harcèlement, le harcèlement. J'ai subi aussi en fait le harcèlement au collège, donc quand j'étais au collège, donc il y a quelques années. Et mais par contre, c'était un groupe de jeunes qui, de qui j'ai subi des attouchements, en fait, un groupe de garçons. Et en fait, ils ont été exclus. La seule punition qu'ils ont eue, entre guillemets, c'est convocation des parents que pour certains ne sont jamais venus. Et tout milieu social, hein, c'était pas milieu défavorisé ou milieu favorisé. Hein. Oui. Et en fait, les parents ont été convoqués, certains ne sont pas venus. Et la punition qu'ils ont eue, c'est 3 jours d'exclusion. Mais en fait, ils étaient contents, les mecs. Hein.
C'est devenu les starlets de l'école.
Non, mais même, ils ont 3 jours de vacances.
Parce que maintenant, ils passent pour des durs parce qu'ils se sont fait exclure 3 jours.
Exactement, ouais, c'est ça.
Donc c'est pas la solution.
Mais Sonia, votre fille, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle est sortie de toutes ces histoires?
Alors elle va bien aujourd'hui parce que aussi on a déménagé aussi un peu pour ça parce qu'elle a subi pas mal de choses. Ouais.
Donc c'est qui le problème? C'est qui la victime? La double victime? Ouais. C'est qui? C'est l'agressé? C'est pas les agressés?
La victime va partir.
Voilà.
Allez-y,
parce
Sonia.
En fait, les élèves sont restés dans cet établissement privé. Je l'ai mis dans le public et dans le public, on a constaté qu'ils étaient beaucoup plus stricts avec le harcèlement et ils étaient beaucoup plus derrière.
Ouais. Merci de ce témoignage, Sonia. Merci d'avoir été avec nous.
Je
vous souhaite une bonne journée.
Oui, mais Gilbert, là, encore une fois, c'est la victime qui a dû quitter.
Parce que depuis tout à l'heure, on parle de quoi? On parle du suivi pédagogique des agresseurs. On parle des moyens d'aider ces agresseurs à ne plus agresser. On parle de tout, mais on ne parle pas de la victime qui s'est fait tabasser, qui est handicapée. Et c'est ça le problème. C'est qu'on parle de convoquer les parents, d'être avec les parents, d'aider les parents à ce qu'ils éduquent leurs gamins, comme quoi les éducateurs font leur truc, ok, et la victime. À quel moment on parle de la victime?
Gilbert, bonjour Gilbert.
Rémi, il est là.
Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Gilbert, que préconisez-vous Gilbert, dites-nous.
Préconiser, je ne sais pas. D'une part, la justice, elle n'existe pas. Vous savez, l'état de droit français ne sert qu'à engraisser les avocats. Hein, la plupart des magistrats anciens n'appliquent que la fameuse harangue de Oswald Baudeau. Bon, en ce qui concerne ce grave problème actuel, moi j'ai toujours responsabilisé mes enfants. Je leur ai appris à se défendre et je vais vous dire, ma petite a été comme tout un chacun agressée et tout ça. Et je la sentais pas bien à la maison. Et je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe? Rien papa. Puis un jour, elle s'est lâchée devant le collège et elle m'a dit, c'est ce garçon-là, il arrête pas de me mettre la main aux fesses, de me harceler, etc., etc. Alors j'ai suivi, elle est allée à la voiture, et quand je suis à la voiture du père, le petit gars qui est à côté, c'est la main, oui. Ben je dis, il faut qu'il arrête d'agresser ma fille, il faut qu'il arrête. Parce que toi, tu vas manger la purée pendant quelques années.
Ah, ça, c'est vous parliez au père, là.
Oui, d'accord. Je parlais au père, hein. Et le père, oui, ceci, cela, j'ai dit, non, tu vas manger la purée pendant quelques années. Je vais te refaire les dents.
C'est ce que j'ai fait.
Alors, il me dit, oui, mais pourquoi être agressif? Ah, j'ai dit, c'est moi qui suis agressif. c'est pas moi qui suis agressif, c'est ton fils qui arrête pas de harceler ma petite.
C'est ça.
Et je, donc
il est passé à la purée et ça s'est arrêté ou pas?
Où est-ce qu'il est passé à la
purée? Oui, il est passé à la purée.
Attendez, excusez-moi, tout ça pour vous dire que les parents doivent se responsabiliser les enfants, les apprendre à se défendre et autres.
Oui. Oui, mais ça peut pas.
Et ça s'est arrêté?
Ça peut pas finir en bagarre entre parents, quoi, non plus.
Alors, attention aussi, parce qu'il y a des enfants qui mentent, il y a des parents qui croient automatiquement leurs enfants, et à la fin, ça se termine en bagarre entre les parents, et finalement, enfin, voilà, je crois qu'il faut laisser les professionnels agir. On est des professionnels de l'éducation. On sait ce qu'il faut faire. Alors, parfois, on fait pas toujours les choses bien, mais on essaye de régler les choses, et généralement, quand on s'y met tous ensemble, on y arrive.
Alors, Gilbert, quand même, il a mangé la purée ou pas, le papa?
Non, mais je vais vous dire le fin mot de l'histoire. Ah oui. Le fin mot de l'histoire. Ma fille a aujourd'hui 29 ans. La semaine dernière, elle a été agressée pas loin de Saint-Maximin par une conductrice. Elle est sortie de la voiture et il y en a collé deux.
Vous avez transmis.
Tout ça pour vous dire que.
C'est de pire en fille, quoi.
C'est la conductrice.
Non, mais j'ai toujours responsabilité des enfants. Je les ai toujours appris à se défendre et à se faire respecter. C'est
mais bon, on n'a pas besoin de frapper quelqu'un quand il ne vous répond en voiture aussi. Ça peut se régler, ça peut se régler différemment.
Gilbert, il y a un slogan chez lui quand tu arrives. Fais gaffe où tu manges la purée. Merci Gilbert.
Je peux dire quelque chose pour en revenir à notre.
Bien sûr, vas-y, finis, Kauter.
Pour en revenir à notre problème de cet enfant, parce que les images, elles sont extrêmement violentes quand même, tu vois. L'année dernière, moi, j'ai été appelée par une maman parce que son fils devait être envoyé du collège. Il était en 5e. Ça me choquait. Donc, j'y arrive. Je ne savais pas ce qu'il avait foutu. Et donc, ils étaient 14. Ils ont cassé toutes les. L'alarme de l'école, les lances à incendie, sauf que ces petits cons, quand tu touches tout ce qui est incendie, tu as un liquide bleu en fait qui se met sur tes mains, et ils se font prendre, enfin un d'entre eux se fait prendre en flag et il nie. Donc comme je dis toujours, quand tu fais une connerie, ok, mais quand tu te fais prendre en flagrant délit, il faut assumer. Et donc ils refusent de balancer ses copains, conseil de discipline, ils ont voulu le renvoyer. Et là je dis, attendez, on renvoie pas un petit de 12 ans et demi dans la nature, parce qu'on en fait quoi après, tu vois? Et en plus, ces petits cons, derrière, ils étaient allés dans un parking et ils avaient cassé des voitures, sauf que ben, dans le parking, on les avait identifiés, bon, c'est bien, tu vois. Et donc, bon. Mais il n'empêche, tu vois, il fallait une prise en charge. Et ce petit qui avait été pris en flag, qui est un petit que je connais, il était dans l'école de mon fils et tout, pas méchant au départ, donc tu vois, tu as l'effet de groupe. Je le fracasse en conseil de discipline, mais je dis, vous le virez pas. Et vu qu'il a manqué de respect à l'agent d'entretien, Mohamed, à qui je rends hommage, c'était en fin d'année, j'ai préconisé que toute l'année, il fasse un travail d'intérêt général avec Mohamed, exactement, sous l'autorité de Mohamed. Et bien, tu vois, ça le ridicule, entre guillemets, devant ses copains, parce qu'il fait... moins le Mac, tu vois. Et du coup, il a travaillé et il a su c'était quoi ce travail payé au SMIC que pourrait faire son père, parce qu'il a l'âge de son père. Et dans ce cas-là, tu vois, ces quatre petits cons qui frappent des handicapés, moi, je leur colorais des travaux d'intérêt général toute l'année dans un centre éducatif pour handicapés. Et ils ferment leur bouche et tous les mercredis et samedis, ils y vont et ils font. C'est tout. Ça suffit pas une punition ou trois jours de vacances.
La préconisation de notre garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur, Kauter Ben Mohamed, que nous terminerons cette discussion dans un instant avec les GG, avec les grandes gueules. On s'en fout. On s'en fout pas. Un projet de statut pour Bernard Tapie devant le stade Vélodrome. 1 300 000 billets vendus en une demi-journée à la SNCF et le mouvement MeToo qui a 5 ans. Qu'est-ce qu'on en dit? On s'en fout, on s'en fout pas. A tout de suite avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, Mehdi Ghezard, chef d'entreprise, Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, et nous sommes avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, à 10h, là, tout à l'heure, on évoquera la difficulté de faire son plein d'essence. Alors, vu qu'il y a un gros problème dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, apparemment, vers chez toi aussi, du côté de Marseille.
Oui, mais est-ce que c'est pas nous qui créons le problème?
Alors, peut-être. Est-ce que c'est nous qui créons cette tension, ou est-ce qu'on a des vrais risques de pénurie? 32-16 pour en parler avec les GG. Mais ce sera à 10h. En attendant, on y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec notre coproducteur Louis Gerbier. Bonjour monsieur Louis.
Bonjour à tous.
C'est parti.
On débute avec les 5 ans du mouvement MeToo. On s'en fout, on s'en fout pas, Mehdi.
On s'en fout pas.
Kauter.
Non.
On s'en fout
Kevin.
Pas.
Bah Kevin, comment?
Bah, je trouve que ça a permis de libérer la parole des femmes. Je pense que dans la lutte, dans les luttes féministes, c'était une étape importante. Alors après, évidemment, il faut faire attention aux excès, mais je trouve que quand même, ce mouvement a grandi la société française et heureusement qu'il a eu lieu.
Kauter.
Moi, je trouve qu'il a été largement insuffisant et que malheureusement, il a été instrumentalisé par certaines politiques alors que cause est importante et noble et dangereuse aussi, parce que bon, faut pas oublier de quoi ça parle. Et que je trouve fort dommage qu'au bout de 5 ans, il n'y ait pas des mesures et des choses qui, en fait, comment te dire? Il n'y a rien qui existe de plus concret pour protéger toutes ces femmes c'est qui sont violentes.
Non, comment? Sincèrement, c'est pas vrai. Il y a eu des mesures. Oui, elles sont peut-être pas suffisantes. C'est mais notamment sur la prise en compte des plaintes.
Mais
il y a
qu'est-ce
quand
que
même
je viens
eu,
de te voilà, dire? Je dis que c'est largement insuffisant. C'était un début, mais 5 ans sont passés, pas 5 mois. Et que malheureusement, on peut regretter que 5 ans après, ça reste largement insuffisant pour protéger ces femmes qui sont victimes de plusieurs violences.
Non, mais c'est jamais assez. Mais on peut pas dire qu'on n'a rien fait.
J'ai pas dit ça.
Mehdi, à toi. Je pense sérieusement et sincèrement que c'est un mouvement qui a pu ouvrir et délier certaines choses qui se faisaient, certaines langues qui où il y avait vraiment des gros problèmes ancrés, où il y avait la peur de dévoiler, de parler, que ça a pu libérer énormément de personnes qui ont été justement agressées, et que c'est quelque chose qui doit juste être encore plus aidé, soutenu, peaufiné, et voilà, c'est pour
améliorer.
Moi c'est une belle date. 5 ans, c'est bien. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire, mais voilà, c'est déjà un très très bon début. Voilà.
Monsieur Louis, on continue.
Eh ben, le succès de MeToo, justement, on a appris que Jean-Luc Lahaye serait de retour en concert.
C'est là que la musique doit partir.
Ouais, c'est là que la musique doit partir. Et on va écouter tout de suite, du coup, des places de concert sont à vendre pour le mois de décembre. Et on écoute tout de suite la colère de deux jeunes femmes qui l'accusent de viol, qui étaient sur RMC ce matin.
Je suis heurtée que la programmation de ces nouvelles dates soit autant banalisée. C'est justement son métier d'artiste et sa notoriété qui lui permettent d'agir avec plus de facilité. Il a un réel pouvoir de par sa popularité et ça, c'est le danger.
Alors, le retour en concert de Jean-Luc Lahaye, on s'en fout pas, Kauter.
On s'en fout pas, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est
attends, on s'en fout pas.
Mehdi,
on s'en fout pas.
Allez, Kauter.
C'est ce que je te disais sur les limites de, tu dénonces, mais après, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu vois qu'il y a des mecs qui sont aussi visibles, tu vois, qui sont accusés de choses qui sont quand même aussi graves, on parle pas de je t'ai gratté la tête, là, tu vois, donc, et avoir encore pignon sur rue, et avoir encore la possibilité, parce que, ouais, mais ne me dis pas que c'est pas encore jugé, tout ça, etc. À un moment donné, il y a jamais de fumée sans feu, et il faut toujours, tu vois, on parlait des victimes par rapport aux jeunes qui étaient handicapés. Eh ben là, c'est pareil. C'est toujours aux victimes à prouver, à souffrir, dont la parole est remise en cause, à être traînée dans la boue, en particulier quand les hommes sont médiatisés et sont puissants. Cet homme, comme beaucoup d'hommes puissants, il y a PPDA, il y en a plein d'autres, etc., ne sont jamais remis en cause et gardent pignon sur rue et gardent le pouvoir d'être encore, si tu veux.
Mais c'est pas ça l'histoire.
C'est quoi l'histoire?
Bah, l'histoire, c'est que il a déjà fait 6 mois de préventive.
Ouais.
Donc, peu importe, mais c'était pas juge, moi non plus. Donc il a fait 6 mois de préventive, il est sorti, son affaire est en cours, il est mis en examen pour viol sur mineur. Et le problème, c'est que rien ne peut lui interdire de chanter, sauf si la magistrate qui l'a remis en liberté durcit son contrôle et lui interdit de. Mais aujourd'hui, a priori, il peut exercer son métier.
Pourquoi
et son
on métier, attend toujours le problème, c'est chanteur. Donc, c'est moi, sûr, je pose toujours la question ici de où est la morale dans ce pays.
Mais c'est pas la morale.
C'est la morale. Tu violes des mineurs, excuse-moi. Quand tu fais 6 mois de prévention, c'est pas pour rien.
Non, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est la lenteur de la justice. Cela donne l'impression, finalement, que cet homme est dans une forme d'impunité qu'il a pu tout faire sans conséquence et sans voix, un très mauvais signal. Et le problème, c'est le budget de la justice, une justice qui ne va pas assez vite et une justice, en effet, qui est déficiente.
Après, à ce moment-là, les spectateurs peuvent très bien décider de ne pas y aller. Mais je ne sais pas s'ils gardent Femme que j'aime dans son répertoire.
Oui, mais je peux comprendre que les victimes...
C'est peut-être un peu malvenu.
Là, tu as raison. C'est vrai que pour les victimes, ça va être insupportable de voir que leur violeur s'affiche, fait des concerts publiquement. Voilà.
On continue.
Allez, on part chez Kauter à Marseille. Laurent Tapie, qui milite pour une statue de son père Bernard.
Devant le stade Vélodrome.
Et pas à Laurent de militer.
Alors, on s'en fout pas.
Je m'en fous complètement.
Très partagé.
Tu t'en fous pas.
Très partagé.
Tu peux dire, je m'en fous.
Non, mais le fait, c'est que je m'en fous pas.
Vas-y, commence.
Alors, tout le monde, c'est un secret de polichinelle de savoir que je suis un supporter du PSG, tout comme Kevin qui adore le PSG, le premier rang tous les matchs. Blague à part, ça me fait mal au cœur de le dire.
Mais Bernard Tapie, c'est quand même quelqu'un qui a métamorphosé le football français, qui a starifié le football français. Ça a été un grand homme du football français. Il a beaucoup contribué à l'essor du ballon. Bon, après, il a massacré l'Olympique de Marseille avec ses trafics, mais bon, ça, c'est entre lui et lui-même.
Il n'est pas massacré. Arrête, Maroc.
Il mérite sa statue. Il mérite sa statue.
Je te l'ai dit, lui et Baisse de Bordeaux, Aulas de Lyon, Nicolas de Montpellier, tu sais, c'est des hommes. C'est des hommes qui ont mis leur club, leur ville sur la carte du football français. Qui ont créé beaucoup de choses, qui ont créé de l'engouement, qui ont créé, voilà. Donc, franchement.
Je suis vraiment pas le supporter de l'OM.
Mais ce qu'a fait Tapie, il a métamorphosé, c'est quand même un type, Tapie, qui était à un demi-doigt de ramener Maradona à l'Olympique de Marseille, hein. On a ramené Messi, mais bon.
L'histoire de la statue, quel est le problème, en fait? Parce que
le problème, c'est que si j'ai bien compris, parce que j'étais là le jour de l'enterrement, beaucoup de promesses ont été faites le jour de l'enterrement par la majorité
l'émotion,
en place,
parce que les Marseillais, vous êtes tous dans l'émotion.
Par Madame Dali, Monsieur Payan, et que depuis, ils ne répondent plus à la famille Tapie.
Oui, vous êtes dans l'émotion, pas dans le concret, Marseille.
Et c'est pas vous, ne me compare jamais à Samia Gali et à Payan, parce qu'elle a mal passé entre moi et moi.
Le maire de Marseille avait promis une statue.
En fait, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais j'étais pas là, encore une fois, j'étais sur le plateau, mais il semblerait que, voilà, au moins, renommer le stade Vélodrome, ce qui est absolument impossible, tu vois, c'est vraiment des promesses qui sont faites, mais tu vois, sous le coup de l'émotion, mais qui sont pas possibles. Donc, tu peux renommer l'Esplanade, si tu veux. Bon, passons. Oui. Il y a eu des tractations, a priori, qui n'ont pas été faites. La mairie de Marseille se révèle au regard de la famille Tapie et des supporters qui étaient en demande, largement en deçà des espoirs. Et voilà. Et donc là, ils sont en train de parler d'une souscription de la part des supporters. Mais dans ces cas-là, moi, je dis très ouvertement, c'est pas à M. Payan de venir couper
le ruban,
c'est à M. Zeroual ou à un président de club de foot, ou moi-même s'ils veulent.
Bon, ils s'en foutent, ériger des
statues de vieilles icônes socialistes qui ont failli, moi, très peu pour moi, vraiment.
Allez, à suivre dans les grandes gueules. Les carburants, est-ce que vous craignez la pénurie, oui ou non? Est-ce que pour faire le plein de votre voiture, c'est véritablement le parcours du combattant? C'est au 32-16 que vous allez nous le raconter. Puis vous savez qu'à 11h, c'est le à vous de choisir. On vous propose deux sujets de discussion. Vous votez sur internet rmc.fr. La sobriété énergétique, les premières mesures du gouvernement qui seront dévoilées aujourd'hui, la manière dont on va planifier concrètement les économies d'énergie, ou bien deux tiers des salariés françaises qui sont pour ce qu'on appelle le congé menstruel au moment où arrivent les règles, qu'on puisse avoir 2-3 jours de congé. Voilà, vous choisissez un de ces deux sujets et on en parle tout à l'heure à 11h avec vous au 32-16. Dans un instant, pénurie ou pas pénurie, galère ou pas galère pour faire votre plein d'essence, 32-16.